Il est 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Dans un instant, le magazine de l'économie, ce sera avec Nathalie Barge. Jean-Roger Billon à ce micro. Tout de suite, un bulletin d'information. La police kenyane a arrêté plus de 650 personnes en 24 heures au lendemain du triple attentat qui a fait au moins 6 morts et une trentaine de blessés à Nairobi. Trois explosions quasi simultanées ont visé hier soir deux restaurants et une clinique dans le quartier surnommé Petit Mogadiscio à Nairobi. Ces attentats n'ont pas été revendiqués. Attentat suicide au Nigeria, la cible était un poste de contrôle de l'armée à Maiduguri, capitale de l'état de Borno. Le bilan est inconnu pour l'instant. Selon un témoin interrogé par le service Hausa de la Voix de l'Amérique, il y a eu trois explosions consécutives, dont deux voitures piégées aux environs de 14h, heure locale. Une bombe placée dans un autre véhicule n'a pas explosé, elle, semble-t-il, mais le chauffeur est descendu et s'est mis à tirer à l'aveuglette sur les gens. On compte des civils et des militaires parmi les morts. L'armée a bouclé la zone. Pour le commissaire de police de Borno, l'auteur de l'attaque semble être Boko Haram. Ce groupe est blâmé pour des milliers de morts depuis 2009, dont 1500 rien que durant les trois derniers mois. En Guinée, la propagation de l'Ebola n'a pas atteint des proportions épidémiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS fait état de 80 morts tout en reconnaissant la gravité de la situation. Elle souligne que ces chiffres sont relativement faibles comparés aux épidémies qui avaient frappé l'Ouganda et la RDC en 2000 et 2001. L'Organisation mondiale de la santé affirme par ailleurs que la maladie ne s'est pas propagée dans les pays voisins. Les 7 cas suspects d'Ebola, dont 4 décès au Libéria, sont survenus chez des Libériens qui ont voyagé en Guinée, souligne-t-elle. L'OMS ne recommande d'ailleurs pas de restrictions sur les voyages. Le Sénégal a pourtant fermé sa frontière avec la Guinée. Réaction de Rémi Lama, le ministre guinéen de la Santé.
On a condamné l'OMS qui a émis dans ce sens un règlement de santé internationale qui interdit les restrictions de déplacement des personnes par rapport à une telle situation. Parce que c'est la même population. Certes, géographiquement, nous sommes séparés, mais ce sont les mêmes populations. Vous voyez aujourd'hui, au Libéria, sur 8 échantillons qu'ils ont envoyés en Guinée pour l'examen, il y a eu des cas positifs. Ce sont les mêmes populations qui se déplacent l'une vers l'autre. Restreindre ou empêcher les Guinéens à aller vers le Sénégal ou vice-versa, moi je me dis que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est que vraiment que les gens procèdent à la sensibilisation de part et d'autre pour pouvoir rompre la chaîne de contamination et dire aux populations, dès que vous ressentiez des cas de fièvre, adressez-vous aux personnes de santé. Et sur ce, en Guinée, on a mis en circulation trois numéros verts. Donc dès qu'il y a un cas suspect signalé, on appelle le numéro vert, le 115, vous composez et vous tomberez sur un des membres de la commission qui tout de suite va se rendre sur le lieu et avec la Croix-Rouge et les autres membres de la commission, tout de suite le patient est recherché et convoyé vers le centre de traitement.
Rémi Lama, ministre guinéen de la Santé. Deux policiers condamnés à 7 ans de prison pour viol en Tunisie. Le jugement est tombé hier soir à huis clos. Les victimes se disent déçues par la sentence, sachant qu'en Tunisie, un violeur encourt jusqu'à la peine de mort. Un troisième policier condamné pour extorsion est coupé de 2 années d'enfermement. Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles. Ils ont décidé de suspendre la coopération civile et militaire avec la Russie. Une mesure prise en raison de la crise ukrainienne et l'annexion de la Crimée par Moscou. Le compte-rendu, Idrissa Seydou.
Le dialogue politique avec Moscou se poursuivra, mais les ministres soulignent qu'ils ne reconnaissent pas la tentative illégale et illégitime d'annexer la Crimée et ils ont exhorté la Russie à prendre des mesures immédiates pour un retour au respect du droit international. Ils se sont par ailleurs engagés à intensifier la coopération avec l'Ukraine pour renforcer ses capacités à assurer sa propre sécurité. Auparavant, la Russie avait mis en garde l'Ukraine contre tout rapprochement avec l'OTAN, disant que de précédentes tentatives de ce genre n'avaient eu que des conséquences négatives, soit un gel des contacts politiques russo-ukrainiens, des maux de tête entre l'OTAN et la Russie et des divisions internes en Ukraine. D'autre part, Moscou a accentué la pression économique sur Kiev. Sa compagnie de gaz naturel, Gazprom, a augmenté de plus de 40% le prix de son gaz à l'Ukraine. Mais on s'attend à ce que de nouveaux prêts du FMI aident à amortir le choc.
Bonsoir par Nathalie Barge pour vous présenter le magazine Économie de La Voix de l'Amérique. Au sommaire de cette édition, sécurité renforcée aux frontières camerounaises et tchadiennes pour faire face à l'afflux de diamants de contrebande venant de la Centrafrique.
Nous avons recruté des points focaux. Et on les a installés le long de la frontière et ceux-ci ont la charge d'identifier toutes les pierres qui sont trouvées, les marquer, les identifier et assurer un début de traçabilité. Parce qu'il n'y a que le diamant marqué, certifié au départ qui est autorisé à sortir au niveau des aéroports.
Le ministre camerounais des Mines, Emmanuel Mbondé, que vous entendrez tout à l'heure. Les pays de la CEDEAO ont encore 2 mois pour s'entendre sur le fameux accord de partenariat économique dont la signature a échoué à Yamoussoukro. Le secteur minier en pleine expansion en Mauritanie et au Mali voisin, c'est l'heure du reboisement et de l'irrigation dans la région de Ségou. Le département d'État américain qui a lancé cette année le programme de bourse Washington Fellowship s'apprête à sélectionner 500 jeunes leaders africains sur le continent dans le cadre de l'initiative YALI.
Tous les pays d'Afrique, ils ont le problème du chômage entre les jeunes. C'est évident que c'est le secteur privé qui va créer les emplois, n'est-ce pas? Et nous voulons certainement encourager la croissance économique et plus d'échanges commerciaux.
Le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, David Gilmour, qui a accordé un entretien à La Voix de l'Amérique, nous l'entendrons donc tout à l'heure. Sécurité renforcée aux frontières camerounaises et tchadiennes pour faire face à l'afflux de diamants de contrebande en provenance de la Centrafrique. Les groupes armés sont ainsi visés par cette décision conjointe prise lors d'une réunion à Yaoundé. Le point avec Nicolas Pinault.
Oui, le Cameroun et le Tchad affirment que les violences en Centrafrique font craindre que le commerce des diamants ne serve à financer l'achat d'armes. Le ministre camerounais des Mines, Emmanuel Mbondé, explique à La Voix de l'Amérique que les deux pays prennent des mesures pour que les diamants du sang ne transitent pas sur leur territoire.
Nous avons recruté des points focaux. Et on les a installés le long de la frontière. Et ceux-ci ont la charge d'identifier toutes les pierres qui sont trouvées, les marquer, les identifier et assurer un début de traçabilité. Parce qu'il n'y a que le diamant marqué, certifié au départ, qui est autorisé à sortir au niveau des aéroports.
La Centrafrique a été officiellement suspendue du processus de Kimberley, c'était en novembre 2013. Jaf Napoléon, lui, est membre de la société civile camerounaise. Il explique que le Cameroun est à partie du processus de Kimberley, a obligation de prendre des mesures sous peine de suspension.
S'il est établi que les diamants proviennent vraiment de Centrafrique et entrent dans le circuit commercial via le Cameroun sera suspendu tout comme la RCA. C'est pour cela qu'il y a un besoin de consultation sous-régionale, pour être sûr que le commerce des diamants n'alimente pas le conflit.
Jaf Napoléon explique aussi que le Tchad est très attentif à la situation, car N'Djamena pourrait être sanctionné par la communauté internationale s'il autorise les pierres précieuses à circuler sur son territoire.
Si vous revenez en arrière, les conflits en Sierra Leone, au Liberia ou en Angola, les diamants ont été utilisés pour financer les conflits et cela a mené à des souffrances immenses. Avec la situation actuelle en Centrafrique, comment être sûr que ce qui s'est passé dans ces pays ne se répète pas?
La Centrafrique a sombré dans la crise il y a 15 mois déjà. Plus d'un million de personnes sont aujourd'hui déplacées à cause du conflit.
Les pays membres de la CEDEAO se sont donné 2 mois de délai pour négocier sur un accord économique crucial qui aurait dû être signé à l'issue du 44e sommet de l'organisation régionale à Yamoussoukro. En effet, malgré plusieurs avancées au plan de la libération des échanges, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se sont quittés ce week-end sans signer le fameux accord de partenariat économique, notamment à cause des réserves du Nigeria, entre autres. Rappelons que lors de cette session annuelle, le président ghanéen John Dramani Mahama a été désigné à la tête de l'institution pour succéder à son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Voici un compte rendu de notre correspondant Côte d'Ivoire, Germain Dri.
Les chefs d'État et de gouvernement réunis en session ordinaire à Yamoussoukro ont planché sur les questions relatives aux performances économiques régionales, à l'accord de partenariat économique APE et à la consolidation de la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. À l'issue de ces échanges, le président ghanéen John Dramani Mahama a été choisi par ses pairs pour diriger la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour 24 mois. Pour le nouveau président, l'intégration régionale est une priorité.
Integration has many elements to it. ETLS, it's got the monetary union and several other things.
Nous allons accorder beaucoup de priorité à l'intégration économique et au développement de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne l'APE, eh bien, tout doit être fait pour nous assurer que les populations de l'Afrique de l'Ouest aient un accord qui nous donne les meilleurs résultats, c'est-à-dire un résultat qui se traduit en termes de meilleure prospérité. L'accroissement des échanges entre nous devrait permettre ainsi d'améliorer aussi notre prospérité économique collective sur la création d'une monnaie unique. Nous allons intensifier nos efforts sur ce plan.
Si tout s'accorde sur le projet d'une monnaie unique en 2020 et de l'autoroute Lagos-Abidjan, en revanche, l'unanimité ne s'est pas faite autour de l'accord de partenariat économique APE. Kadré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO.
Au titre de l'accord de partenariat économique, la conférence valide les conclusions de l'accord dans le principe. Elle note cependant qu'il reste quelques questions techniques à résoudre. À cet effet, la conférence instruit les négociateurs en chef de prendre les mesures nécessaires dans un délai de 2 mois en vue de trouver une solution aux questions soulevées par certains États membres, notamment le Nigeria, avant la signature de l'accord. Les chefs d'État et de gouvernement réitèrent la nécessité d'obtenir une croissance encore plus vigoureuse pour conforter l'emploi et permettre la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. La conférence exhorte les États membres à poursuivre les efforts qu'ils déploient en vue de la mise en place de cadres macroéconomiques assainis et stables. Le sommet invite les États membres à respecter les critères de convergence macroéconomique et demande au président de la Commission d'en assurer rigoureusement le suivi. Dans l'optique de la consolidation du marché commun, la conférence réitère ses décisions du sommet de Dakar sur le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Elle salue à cet égard les mesures déjà engagées pour le renforcement de la stratégie industrielle, l'harmonisation des politiques commerciales, la mise en place d'un programme de transition fiscale et la pleine application par tous les États membres du schéma de libéralisation des échanges.
Notons que le président John Dramani Mahama succède au président ivoirien Alassane Ouattara qui a passé 48 mois à la tête de la CEDEAO. Germain Dri, Yamoussoukro, La Voix de l'Amérique.
En Mauritanie, le secteur minier est en pleine expansion. La Société nationale industrielle et minière qui exporte de manière exclusive le minerai de fer du pays depuis les années 60 a signé un accord préliminaire d'$1 milliard avec Glencore Xstrata, une société basée en Suisse. L'accord qui doit encore être finalisé devra permettre aux géants des matières premières d'accéder aux installations ferroviaires et portuaires du pays. Comment la Mauritanie pourrait-elle tirer profit d'un tel investissement étranger? C'est une question que Jacques Aristide a posée à Isselmou Ould Mustapha, directeur du journal mauritanien Talil.
Les mines de fer en Mauritanie, c'est le premier minerai qui a été exploité dans notre pays. C'est la première ressource sous terre qui a été exploitée chez nous. Et elle a été exploitée premièrement par une société qui s'appelle la Niferma, les mines de fer de Mauritanie, depuis 1963. C'est dans le nord de la Mauritanie qui était à l'époque désertique et qui a vu naître une nouvelle ville qui est minière, c'est la ville de Zouerat, qui est reliée à l'Atlantique par un chemin de fer long de plus de 600 kilomètres. Après la Niferma, depuis 1975, il y a la SNIM, la Société nationale industrielle et minière. Elle appartient à plus de 78% à l'État mauritanien. Le reste, c'est pour des Koweïtiens, des Jordaniens et d'autres actionnaires arabes. Cette société, jusqu'à présent, on dirait qu'elle stagne à peu près 11 millions de tonnes par an et qu'elle exporte. Elle ne fait qu'exporter, extraire le fer et l'exporter. Elle emploie entre 4 000 et 5 000 personnes. Donc, c'est ça un peu comment se présente comme étant le géant industriel du pays, sans vraiment faire ou produire beaucoup de dividendes sur le pays. Peut-être ils sont exonérés en grande partie. C'est ils apportent le trésor public depuis quelques années, depuis la montée des prix du fer. Elle commence un peu à générer des dividendes assez importants tous les ans. Mais ça s'arrête là. Je ne vois vraiment pas d'autres perspectives.
Cet accord avec Glencore Xstrata, s'il est finalisé évidemment, signifie des investissements étrangers dans le pays. Qu'est-ce que cela peut apporter à la Mauritanie?
Beaucoup de choses, surtout au niveau de l'emploi. Il y a bien sûr le savoir-faire dans la mesure où certainement ces Xstrata et Glencore vont certainement, c'est la mine de l'Aouche qui est au nord de la Mauritanie qu'ils vont exploiter. Ils vont l'exploiter à travers les installations de la FIM, ça rapporte déjà beaucoup de trucs à la FIM. D'autre part, ça va rapporter beaucoup de choses, ouvrir des perspectives pour l'exploitation minière dans notre pays et surtout ouvrir des perspectives pour beaucoup d'emplois. Parce qu'il semble que cette entreprise peut employer peut-être 20 fois plus que ce qu'a employé la FIM, donc ce qui est extrêmement important pour nous. Dans un pays où la majorité de notre population est jeune et le chômage frappe durement la jeunesse mauritanienne. Donc ça ne peut qu'apporter des perspectives importantes. Reste maintenant à savoir quelles sont les clauses du contrat. Est-ce que c'est un contrat gagnant-gagnant pour nous et pour l'entreprise Glencore? Ça, ce sont des questions qui restent encore en suspens et pour lesquels nous n'avons pas encore de réponse.
Combien d'emplois on peut éventuellement créer dans le secteur minier?
On parle, c'est peut-être pas sur la base d'informations vraiment très fiables, mais on parle déjà de plus de 60 000 emplois qui peuvent être créés dans le secteur minier. Et si telle chose se réalise, ce sera vraiment un véritable boom pour notre pays. C'est incontestable.
Notre confrère Issel Mouhould Mustapha était joint à Nouakchott en Mauritanie. Lancement d'un vaste programme de reboisement et d'irrigation au Mali, dans la région de Ségou, à Mbewani, soutenu par l'Union européenne. La cérémonie de réception a été présidée lundi par le Premier ministre Oumar Tatamli, en présence du chef de la délégation de l'Union européenne au Mali, Richard Zinc. Plus de précisions avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Mbewani, la benjamine des zones de l'Ofrit du Niger, accueille la cérémonie de réception de 2500 hectares de périmètre irrigué aménagés grâce à l'Union européenne. Cheikh Kamiseko, chef des infrastructures à l'Union européenne.
Le premier objectif, c'est d'augmenter la superficie aménagée. Deuxièmement, c'est améliorer la maîtrise de la technique de production, la gestion financière en matière d'entretien de réseaux d'irrigation. Il y a aussi la gestion de l'eau.
En plus, il y aura le lancement du projet de reboisement qui concerne pour le moment 1000 hectares.
Ces zones qui seront reboisées, ce sont des zones qui ne sont pas aptes donc à la culture. Donc, c'est les zones où l'eau ne peut pas dominer et il y a des zones d'emprunt, etc. Donc on va essayer de les reboiser pour un coût total d'environ 1 milliard de francs CFA.
En finançant ces projets, l'Union européenne veut créer des emplois à haute intensité de main-d'œuvre plus proches des populations concernées par le secteur agricole. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
YALI, Young African Leaders Initiative, ou l'initiative pour les jeunes leaders africains, est une initiative clé du président américain Barack Obama dans ses efforts pour mieux impliquer la future génération de jeunes entrepreneurs et innovateurs africains. Le programme d'échange ayant débuté en 2010 connaît un succès grandissant, notamment grâce à l'interconnectivité via Twitter entre ces jeunes leaders africains et les ressources du gouvernement américain. Le département d'État qui a lancé cette année son programme de bourse Washington Fellowship s'apprête à sélectionner 500 jeunes bénéficiaires sur le continent. L'un des objectifs de cette initiative est de permettre aux jeunes Africains doués d'un fort potentiel de leadership d'être les principaux acteurs de la croissance économique de leur pays et de leur continent. À ce propos, le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, David Gilmour, a accordé une interview à La Voix de l'Amérique.
En 2012, nous avons invité les jeunes entrepreneurs africains aux États-Unis pour un échange, un programme. Et quand le président Obama a voyagé en Afrique au mois de juin de 2013, l'année dernière, il a annoncé une expansion majeure de cette initiative et nous avons créé un programme de bourse qui s'appelle le Washington Fellowship. C'est un programme nouveau et on est en train de lancer ce programme cette année. Le but du programme, c'est d'établir un réseau entre les jeunes leaders africains et aussi ce programme de bourse va offrir aux 500 jeunes leaders africains de venir aux États-Unis pour suivre un cours dans une université. Et nous avons les cours dans trois domaines, la formation en commerce et entrepreneuriat, l'administration publique et le leadership civique. À partir de juin de cette année, on a offert ce cours pour 500 boursiers qui vont venir aux États-Unis. Nous sommes en train, en fait, de choisir les 500 participants maintenant et nous avons reçu des milliers de demandes.
Alors, le choix va être très difficile. En effet, on imagine que c'est très populaire. Bah, finalement, quels sont les critères pour retenir les heureux gagnants de cette bourse?
Ils doivent être âgés entre 25 et 35 ans, donc les jeunes Africains. Et ils font preuve de leur leadership dans leur organisation privée ou civique. Ils doivent montrer leur talent et leurs compétences au service de leur communauté. Ils ont fait les demandes en ligne et nous avons un système. On a déjà reçu toutes les demandes et nous sommes en train de choisir les candidats.
Quel est l'objectif principal à travers ce projet qui est vaste, hein, on le comprend bien, c'est un projet de sensibilisation, de formation. Est-ce que le principal objectif est de créer de l'emploi, par exemple?
Tout le monde sait que l'Afrique est en train de changer et il y a beaucoup de croissance économique maintenant. Il y a une croissance démographique en Afrique et on dit que 60% de la population africaine à moins de 35 ans. Donc, nous avons beaucoup de jeunes en Afrique et nous pensons qu'il y a beaucoup de talents et nous voulons encourager ce talent. Nous voulons établir les liens entre les Américains et les jeunes leaders africains. Je pense que nous avons beaucoup de choses à partager. Nous voulons participer dans la vie des jeunes leaders africains. C'est la prochaine génération des leaders, n'est-ce pas?
J'aimerais bien savoir dans tout ça, finalement, qu'est-ce que vous avez prévu justement en direction des femmes?
Ça, c'est très important pour nous et nous, on met l'accent sur les jeunes filles. C'est pour ça que nous avons eu le programme en 2011 avec Michelle Obama. Et nous allons assurer qu'il y aura une bonne participation de jeunes filles dans ce programme. C'est quelque chose que nous voulons encourager, c'est sûr.
Il va y avoir un quota dans la sélection ou comment vous allez procéder pour tenir compte de la présence des filles? Parce que moi, j'imagine bien qu'il doit y avoir, dans toutes ces demandes qui vous sont faites, il doit y avoir une grande majorité de jeunes hommes quand même.
Oui,
non?
Oui, mais nous allons faire un effort de chercher les bonnes candidates des jeunes filles.
Est-ce que c'est important, la question économique?
Ah, c'est très important, parce que tous les pays d'Afrique, ils ont le problème du chômage entre les jeunes. C'est évident que c'est le secteur privé qui va créer les emplois, n'est-ce pas? Et nous voulons certainement encourager la croissance économique et plus d'échanges commerciaux. Et c'est très important, oui.
Vous êtes en relation, finalement, avec des jeunes qui sont dans des pays très pauvres, hein, en Afrique, notamment dans des pays en guerre également. Est-ce que vous avez des jeunes centrafricains qui sont, étant donné la situation aujourd'hui, qui sont bien connectés avec vous dans ce projet?
Oui, et nous avons des candidats de la République centrafricaine et nous sommes en train de réviser leurs applications, mais oui, nous aspirons à recevoir les candidats de tous les pays de l'Afrique. C'est une question de développer leurs capacités professionnelles, qu'elles peuvent réussir dans leur carrière, dans n'importe quel domaine. On veut renforcer la capacité professionnelle de chaque participant. Nous sommes ravis d'offrir cette opportunité, ce programme, et nous sommes très optimistes sur l'avenir d'Afrique et les jeunes Africains. Je pense que ce programme va être un grand succès. Il y a beaucoup d'intérêt parmi les jeunes Africains.
C'était le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, David Gilmour. Et à propos... Et à propos de la Centrafrique qui traverse une grande période d'insécurité, depuis plus d'un an, nous avons contacté dernièrement la ministre centrafricaine de l'économie, Florence Limbio, dressant ici un bref aperçu d'une économie complètement paralysée qui ne fait qu'augmenter les statistiques du chômage en République centrafricaine.
Tout l'appareil productif industriel qui existe dans le pays a été pillé, a été vandalisé. Et au niveau du secteur agricole, nous avons pratiquement plus d'agriculteurs qui travaillent effectivement. L'élevage ne se porte pas bien, étant donné tous les problèmes qui se sont posés à l'intérieur du pays. Donc la situation est extrêmement difficile. Et comme nous sommes en période de transition, nous avons beaucoup d'urgence. Nous avons tellement d'urgence que tout ce que nous faisons, c'est très urgent. Par exemple, la sécurité qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. L'activité économique sans sécurité pose véritablement un gros problème. Donc, nous essayons de faire relever le pays, mais les défis sont énormes.
C'était la ministre centrafricaine de l'économie, du plan et des pôles de développement, Florence Limbio. Les autorités nigérianes ont détruit ces derniers mois des centaines de raffineries de pétrole illégales dans la région du delta du Niger. L'opération est critiquée par certains activistes qui appellent à la légalisation de ces raffineries, mais d'autres estiment que légitimer le vol de pétrole ne fera qu'aggraver les pénuries chroniques de carburant, de même que l'impunité générale au Nigeria. Jacques Aristide.
Le delta du Niger, riche en pétrole mais est pauvre et très pollué, ses habitants qui vivent de l'agriculture et de la pêche pointent du doigt les compagnies pétrolières. Certains d'entre eux se sont tournés vers le vol de l'or noir qu'ils prélèvent des oléoducs pour un marché noir lucratif. Le gouvernement nigérian est pris entre deux feux. Édouard Ofomore, avocat et ancien commissaire de police. Nous apprenons chaque jour qui passe que les autorités ont détruit des raffineries, mais ces raffineries repoussent après leur destruction. Pourquoi cela? Je vous laisse tirer votre conclusion. Pour l'homme de loi, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut légaliser, réglementer la vente noire du pétrole. N'est-ce pas là un cercle vicieux? Il ne faut plus se voiler la face. La solution passe par la légalisation, par des permis en bonne et due forme, ce qui permettrait même de renflouer les caisses de l'État. Selon lui, les opérateurs de petites raffineries pourraient ainsi acheter du pétrole brut de l'État. Les critiques de ce plan se demandent pourquoi les contrebandiers feraient l'acquisition légale de pétrole brut, alors même qu'ils peuvent se le procurer gratuitement à partir des oléoducs. D'ailleurs, le gouvernement affirme que les vols de pétrole coûtent jusqu'à 1 milliard de dollars par mois à l'État. Wole Olaoye, un chroniqueur de journal nigérian The Daily Trust.
Stealing is wrong.
C'est mal de voler. Ces gars perforent les oléoducs, volent le pétrole et le raffinent sur place. Ils ne sont pas du tout préoccupés par les effets néfastes sur l'environnement. Pas du tout. Ils causent des dommages incalculables à l'environnement. Ils volent les ressources de l'État. Pour ce journaliste, toute tentative pour régulariser le commerce du pétrole sur le marché noir contribuerait à un autre problème épineux au Nigeria, c'est-à-dire l'impunité. De nombreux crimes restent impunis dans le pays, ce qui alimente l'insurrection dans le nord et l'instabilité dans le sud. À Wari, une ville pétrolifère dans le delta du Niger, les habitants affirment que ce sont les compagnies pétrolières qui sont les vrais voleurs. Elles sont accusées de faire main basse sur les ressources en laissant derrière elles des terres et des eaux polluées. Dans un pays premier producteur de pétrole du continent, les voitures manquent souvent de carburant et les pannes d'électricité sont devenues le lot quotidien des Nigérians.
Et voilà, le magazine Économie de la Voix de l'Amérique se referme maintenant. La mise en onde était assurée par Joselle Morissin. À la console, c'était Bill Barber. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Vous retrouverez bien sûr Camille Grosdidier pour la prochaine édition, mardi prochain. Très bonne soirée à tous.